Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous avons vu lors de notre dernier sermon sur Jésus-Christ, c'était il y a une dizaine de jours, que la nature humaine est assumée par la personne de Jésus-Christ. Nous avons essayé d'illustrer avec des notions précises, approfondies, cette question de l'union de deux natures en une seule personne. Saint Thomas ensuite étudie comment se fait cette union. Je pense que cela est très important pour des théologiens parce que cela permet de mieux comprendre les choses et puis d'éviter des erreurs. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire, surtout dans un sermon, de descendre plus avant dans les détails. Et cela risquerait de vous embrouiller même. Il y a une question qui se pose, que saint Thomas pose, et le père Garrigou Lagrange, un très grand théologien, apporte des éclairages très intéressants. Il y a une question, mais est-ce que, et ça pour le coup, ça va être intéressant pour vous. Et nous allons aboutir du coup à une meilleure connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa vie spirituelle. Et c'est ça pour l'instant qui vous importe. Donc cette question, la nature humaine en notre Seigneur Jésus-Christ n'est-elle pas diminuée du fait qu'il lui manque une personne humaine? Vous comprenez donc le problème? Une nature, normalement, existe par soi-même, c'est-à-dire qu'elle a son autonomie, elle n'a pas besoin d'un apport extérieur, enfin, une nature concrète, vous voyez, Pierre, Paul, Jacques, Jean. C'est justement leur définition, c'est qu'ils existent par eux-mêmes, ils ont leur autonomie, ils ont tout leur être complet. Ils ne sont pas seulement des hommes, ils sont un homme réalisé, concrètement. La nature humaine de Jésus-Christ est une véritable nature humaine et nous allons voir qu'elle est même une nature aussi parfaite que possible. Seulement, on se pose la question du fait qu'elle n'a pas de personnalité propre, personnalité humaine, il n'y a pas de personnalité humaine, n'est-elle pas diminuée? La réponse de saint Thomas est très belle et très élevée. Il dit non seulement elle n'est pas diminuée, mais elle est élevée. Elle est élevée parce que à la place d'être assumée par une personne humaine, cette nature est assumée par une personne divine. Et cette personne divine grandit la nature humaine en l'associant à ses actions divines et à son être divin. Pour le dire autrement, il est évident que cet homme, le Christ, le Fils de l'homme, hein, puisqu'il s'appelle le Fils de l'homme quand il veut rappeler qu'il est un homme, le Fils de l'homme a reçu de la divinité, du Fils de Dieu, une dignité dans son être, une dignité dans son action, une grandeur qui est supérieure à celle de tout autre homme et énormément supérieure. C'est une évidence. Si on le dit comme ça, c'est une évidence. Seulement, il fallait se poser la question. Parce que on en arrive à un point qui nous concerne, nous, très directement, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ est un modèle pour nous, et pas seulement un modèle dans nos actions, il n'est pas un modèle moral. Quand on pense modèle, on pense souvent à modèle moral, c'est-à-dire que nous devons faire ce qu'il a fait. Mais il est d'abord un modèle dans son être, dans sa façon d'être. Il est un modèle dans son union à la divinité, dans l'union de la nature humaine à la divinité. Parce que, rappelez-vous bien, mes bien chers frères, que nous sommes les temples de Dieu, les temples de la divinité. Très souvent, nous disons, et le catéchisme nous dit, nous sommes les temples du Saint-Esprit, pour nous faire comprendre le côté spirituel de cette présence de Dieu en nous. En réalité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont inséparables, et si nous sommes les temples du Saint-Esprit, nous sommes les temples de la divinité. Je vous ai un petit peu évoqué cela lors du sermon de l'Ascension. Vous avez compris qu'il y avait une alliance, et que cette alliance se fait dans une amitié très profonde avec Dieu. Eh bien, c'est cela que nous voulons dire en parlant de nos âmes qui sont les temples de Dieu. Et en disant cela, d'ailleurs, nous disons les choses beaucoup plus profondément, évidemment. Donc, nous sommes les temples de Dieu. L'âme de Jésus-Christ, je parle de son âme humaine, parce que je ne vous fais pas l'insulte de vous rappeler que du moment que Jésus a une nature humaine, il a une nature complète avec un âme et un corps. C'est Descartes qui a une conception tout à fait mécanique du corps et pour lequel l'âme n'est pas grand-chose. Pour Descartes, le corps est une espèce de marionnette, si vous voulez. Alors, le corps de Jésus-Christ n'est pas une marionnette dirigée par Dieu. Ça ferait pas un homme, ça ferait une nouille, ça ferait une marionnette. Non, la nature humaine de Jésus-Christ est une nature plus parfaite que la nôtre, humaine mais plus parfaite, qui agit en tant que nature humaine, avec une intelligence, avec une volonté, avec toutes les perfections de l'âme humaine, avec une âme, avec toutes les perfections de l'âme humaine, et cette nature, avec son corps et son âme, sont très intimement unies à la nature divine à travers la personne de Jésus-Christ qui les unit dans une seule et unique personne. Elle est assumée, cette nature est assumée par Jésus-Christ. Et donc elle est très intimement unie. Et on peut dire que, d'une certaine façon, même tout à fait réellement, l'âme de Jésus-Christ est un temple pour la divinité de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ est au ciel, dans son temple. Alors là, au ciel, le temple et lui sont la même chose. Sa présence est tellement parfaite qu'elle occupe toute la place. Enfin, vous me comprenez, mes bien chers frères, hein, c'est une manière très humaine de parler. Le ciel, c'est le grand temple de Dieu. Mais c'est quand même important de le préciser parce que beaucoup de gens voient le ciel comme une espèce de magnifique cité, de magnifique église, de lieu, vous voyez, dans lequel Dieu est présent. Et non, le ciel, c'est Dieu. Et donc, Dieu est dans son temple quand il est en lui-même, si vous voulez, si je puis parler ainsi. Mais également, l'âme de Jésus-Christ est un temple pour la divinité. Vous allez me dire, mais pourquoi Dieu s'abaisse-t-il ainsi? Mais parce que justement, nous l'avons étudié dans toutes les premières questions, Dieu s'abaisse pour nous élever. Et donc, il ajoute à la perfection de ce temple divin qu'est le ciel, une perfection dans une nature humaine, et il donne à cette nature humaine d'être le temple de la divinité. Et par l'union dans la personne, dans l'unique personne, Cette union, on l'appelle union hypostatique, c'est un mot grec qui veut dire union personnelle. Bon, le terme est reçu, c'est pour ça que je vous le donne, parce qu'il faut que vous le connaissiez, union hypostatique. C'est l'union des deux natures dans une seule personne. Donc par cette union personnelle, la nature de Jésus-Christ est un vrai temple pour Jésus-Christ. Et un temple parfait. Un temple parfait parce que cette union étant dans une personne, il n'y a pas, comme chez nous, une distinction de personne, parce que lorsque Dieu est présent en nous comme dans son temple, nous restons nous, il reste lui, il est présent en nous, c'est très mystérieux, il est présent en nous, mais nous restons nous-mêmes. Et malgré tout, cette présence de Dieu en la nature humaine de Jésus-Christ est un modèle pour nous, parce que notre idéal, ce vers quoi nous tendons, c'est que Dieu prenne de plus en plus la place en nous et surtout qu'il assume notre nature, notre être et nos actions. C'est-à-dire, nous souhaitons que le plus possible, notre nature soit assumée par Dieu pour correspondre dans l'alliance avec Dieu à ce que Dieu attend d'elle. J'espère que je ne vous perds pas, mes bien chers frères, on peut le dire d'une autre manière, par l'union personnelle en Jésus-Christ, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Fils éternel, naturel par nature, le Fils éternel de Dieu. Il n'est pas fils adoptif. Et la nature humaine de Jésus-Christ entre dans cette filiation éternelle. Nous ne sommes pas destinés à être des fils naturels de Dieu, nous sommes destinés à être des fils adoptifs. Ça, je pense que vous le compreniez bien. Saint Thomas en parle de cette adoption. C'est-à-dire que nous entrons dans une ressemblance avec Jésus-Christ dans son rapport avec Dieu le Père. Et c'est pourquoi nous disons, notre Seigneur nous a enseigné à prier en disant notre Père. Et c'est important ça, notre Père, parce que nous sommes dans la filiation. Eh bien, cette filiation éternelle assume la nature humaine de Jésus-Christ, et cette nature entre dans la filiation éternelle, puisque il n'y a qu'une personne. Alors nous ne pouvons pas dire cette nature est fils de Dieu, mais nous disons cette nature est la nature du Fils de Dieu, la nature humaine. Comment nous-mêmes allons-nous devenir fils adoptifs de Jésus-Christ, de Dieu? Nous allons devenir fils adoptifs en étant assumés par Dieu. Dieu pénètre en nous. Dieu fait de notre âme son temple. Tout cela sont des notions très voisines. Ce ne sont pas les mêmes notions, mais des notions très voisines. Et notre Seigneur, par son union hypostatique, personnelle, est un modèle et nous devons tous tendre autant que nous pouvons. Nous ne pourrons jamais arriver à cette perfection de l'union personnelle. C'est pas possible, sinon ça supposerait que nous devenions le Fils de Dieu. Ça, c'est pas possible. Mais vous vous rendez bien compte, mes bien chers frères, que notre nature humaine n'est pas diminuée, elle n'est pas amputée lorsqu'elle est élevée à un niveau divin, même si cela semble, je dis bien semble, la priver d'un épanouissement de la personnalité humaine. Ça semble, mais c'est pas vrai. Notre personnalité est bien plus épanouie en étant unie à Dieu, qu'en restant purement au niveau humain, surtout pour nous qui, à cause du péché originel, avons été très profondément blessés. Et donc, c'est ce que saint Thomas va désormais étudier. Il va étudier la grâce du Christ. Il va étudier comment la nature humaine de Jésus-Christ est sanctifiée, comment elle devient, comment elle est pénétrée, comment elle est irradiée. C'est comme quelque chose de radioactif. Vous mettez un objet neutre à côté d'un métal ou d'un objet radioactif, et l'objet neutre reçoit la radioactivité, et il devient à son tour radioactif. Et il peut irradier d'autres objets à son tour. C'est toute la question de la contamination des centrales nucléaires. C'est toute la question moderne, là, voilà. Alors, le bon Dieu a fait les centrales nucléaires pour nous donner des petits exemples, vous voyez, de ce que peut être une action de ce genre. Bon, c'est un exemple qui est tout petit, qui est très matériel. Enfin, ça nous donne une petite idée. Et comme il a fait les aimants, un aimant qui s'attire, un fer qui est attiré par un aimant, pour nous donner une toute petite idée d'une attirance, d'un désir d'aller l'un vers l'autre. Donc, saint Thomas va nous expliquer comment cette nature humaine de Jésus-Christ est irradiée par la divinité tout en demeurant humaine. Et donc, par conséquent, il va falloir qu'elle soit pénétrée d'une grâce créée, qu'on appelle la grâce habituelle. Grâce habituelle qui va élever cette nature et la rendre capable d'être sous l'influence de la nature divine et du Fils de Dieu. Et si j'insiste sur ces choses-là, c'est parce que, je sais bien que c'est un sujet difficile, si j'insiste sur ces choses-là, c'est parce que beaucoup d'entre vous, mes bien chers frères, je le sais, avaient du mal à comprendre la nature de la grâce. Beaucoup de gens limitent la grâce à la grâce actuelle qui nous aide à faire le bien et à éviter le mal. Mais ça, c'est une conséquence. Parce que s'il n'y avait en nous que la grâce actuelle sans la grâce sanctifiante, eh bien, notre nature serait une marionnette entre les mains de Dieu. Une marionnette peut faire des choses presque humaines. Vous voyez, quand une marionnette, je sais pas moi, parle à une autre marionnette, ou qu'elle fait des gestes. Ah ben, les enfants qui sont devant le théâtre des marionnettes ne voient pas le tireur de ficelle, ils voient que la marionnette. Et ils comprennent très bien, que la marionnette est en train de faire des gestes, elle dit oui de la tête, elle dit non de la main. Seulement, toute la signification, toute la qualité, tout le côté spirituel de ces actions des marionnettes viennent en réalité de l'homme qui est au-dessus d'elle. Si nous n'avions pas la grâce habituelle, et nous serions un peu comme des marionnettes. Or, Dieu ne veut pas que nous soyons des marionnettes. Il entre avec nous dans une alliance, et une alliance de charité, et une alliance d'amitié, et une alliance de filiation. Par conséquent, il faut qu'il nous élève. Comment voulez-vous qu'un ami puisse avoir pour ami un inférieur sans l'élever? Comment voulez-vous qu'un roi puisse être l'ami d'un esclave? Bah oui, dans l'humanité, bien sûr, ils sont tous les deux des hommes, et c'est la splendeur de la vie chrétienne, de la morale chrétienne, que d'avoir fait de Saint Louis un ami du plus humble des serviteurs, parce qu'il est chrétien. Mais enfin, naturellement, le roi n'est pas ami d'un esclave. Par contre, si cet esclave est adopté par le roi dans sa famille, et qu'il devient son fils, alors à ce moment-là, il y a entre le roi et cet homme adopté, on ne parle absolument plus d'esclave, c'est fini, c'est terminé, c'est le fils du roi, et il y a une intimité, donc une amitié, entre le roi et le fils qu'il a adopté. Et c'est cela ce que fait la grâce habituelle en nous. Parce que Dieu veut être présent comme un ami. Saint Thomas dit que Dieu est présent en nous comme objet de connaissance et d'amour. Faut traduire objet de connaissance et d'amour, ça veut dire un ami, amour, un ami connu, Il est présent en nous comme un ami connu et aimé. Et un ami qui nous connaît et qui nous aime, ça nous le savions. Et nous le connaissons et nous l'aimons tel qu'il est, c'est-à-dire dans son intimité divine de la Sainte Trinité, pas seulement comme les philosophes qui voient de loin Dieu et qui disent « Ah, Dieu, est, le Créateur est bon pour nous ». Vous voyez ? Et pour que cette amitié puisse être réciproque, il faut que l'homme soit adopté, parce que vous savez, aux yeux de Dieu, un homme, un animal, oui, entre un homme et un animal, il y a une grande différence. Mais aux yeux de Dieu, entre un et un million, par rapport à des milliards de milliards d'infinités, ça ne fait pas grande différence. Par conséquent, il faut que l'homme soit élevé pour franchir cette distance de millions de milliards d'infinités, pour arriver à ce niveau-là. Et c'est la grâce habituelle. Cette grâce habituelle, elle est évidemment en Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ a fait pour sa propre nature humaine beaucoup plus et beaucoup mieux que ce qu'il fait pour nous, et c'est ce que nous avons à étudier. J'arrive à la fin du sermon. Donc je ne veux pas prolonger. Je vous en reparlerai la prochaine fois. J'espère que vous avez compris, mais je suis pas... J'ai pas voulu suivre saint Thomas à la lettre, mais il faut que vous compreniez bien cette grande richesse. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, parce que ce que je suis en train de vous dire, je vous l'ai déjà prêché plusieurs fois. Monseigneur Lefebvre y revenait sans cesse, sans cesse, sans cesse. Voyez l'habitation de Dieu dans l'âme des justes, la vraie vie de la grâce. Qu'est-ce que c'est que la vie de la grâce? C'est pas quelque chose de... Comment dirais-je, un simple instrument. La grâce n'est pas qu'un simple instrument. Nous sommes élevés, nous sommes dans la filiation divine, dans l'amitié divine. Référez-vous à ce que je vous ai dit pour le sermon de l'Ascension. Confions tout cela à la très sainte Vierge, qui, dans ce temps entre l'Ascension et la Pentecôte, préside la retraite des apôtres. Les apôtres font une retraite. Au fait, mes bien chers frères, j'organise des retraites à la Villeneuve. Dès demain, je mets le programme des retraites sur mon site pour les 6 prochains mois. Il faut en profiter. Et donc, profitez-en. Hein. Donc, mettons-nous en retraite avec la Très Sainte Vierge et demandons-lui de préparer nos âmes à la venue du Saint-Esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.